Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbe pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Nous sommes très honorés de vous présenter le grand spécialiste des pédagogies alternatives, Sylvain Vagnon. Professeur en sciences de l'éducation, Sylvain explore les différentes pédagogies alternatives. Il a notamment publié un livre aux éditions Attier, Les pédagogies alternatives, pour mieux les comprendre et les appliquer au jour le jour. Nous avons donc parlé de l'histoire des pédagogies alternatives, de leurs points communs, mais surtout de leur essor en France. Nous avons également abordé plus en détail les pédagogies de Crowley et Forest Schools, qui se concentrent sur l'importance de l'environnement et du lien avec la nature. Ce tour d'horizon des pédagogies alternatives était passionnant. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on adore, puisque nous allons parler des pédagogies alternatives. Et donc on a hâte de découvrir votre parcours et toutes ces explications autour de ces pédagogies avec un zoom particulier sur les pédagogies de Crowley et les Forest Schools. Donc j'aimerais démarrer cette conversation en vous demandant pourquoi vous êtes autant passionné pour les pédagogies alternatives.
Écoutez, c'est une passion, le terme est peut-être un peu choc, mais c'est vrai que depuis maintenant, on va dire, des dizaines d'années, je me suis beaucoup intéressé en tant qu'historien à l'histoire des pédagogies nouvelles, on y reviendra, et aussi évidemment sur les défis actuels, parce que ce qui m'intéresse dans ces pédagogies alternatives, le terme est fort, hein, de l'alternatif, hein, ça veut dire quand même créer aussi, penser un autre monde, hein. Et je crois qu'avec ces pédagogies alternatives, il y a vraiment quelque chose de très révélateur au XXIe siècle, avec une vraie volonté, en tout cas, de changer notre société. Donc c'est ça qui m'a un peu passionné. Et puis évidemment, par mon cursus d'enseignant du second degré puis du supérieur, l'idée vraiment des pédagogies alternatives m'est apparue comme avec beaucoup de force, parce que évidemment, l'idée est de transformer aussi notre éducation, c'est-à-dire transformer la vie de nos jeunes et puis la société future.
Super. Et alors, on se demandait si, pendant votre enfance ou votre adolescence, vous aviez bénéficié d'une éducation autour de ces pédagogies alternatives ou pas du tout?
Alors, c'est pas aussi binaire. C'est-à-dire que, j'allais dire que dans le domaine familial, je suis d'une famille d'enseignants depuis, j'essaie d'y réfléchir comme ça, mais 4 générations. Donc ça fait de premier degré, du second degré. Donc il y a toujours eu quand même quelque chose de très fort, hein, dans la transmission et dans la volonté de confiance qui m'était donnée. Après, si on parle au niveau éducation, donc au niveau éducation familiale, j'allais dire qu'il y a cet amour, hein, véritablement, et qui était extrêmement fort. Par contre, évidemment, dans le domaine scolaire, si on peut dire, c'était une scolarité beaucoup plus chaotique. Et même si j'ai tout fait dans l'enseignement public, disons que beaucoup de fois, on va dire que les enseignants m'ont un peu raccroché un petit peu à la suite possible d'études, parce que c'était un petit peu complexe, on va dire, pour faire assez vite.
Et alors, depuis, vous êtes intéressé, comme on l'a dit, aux pédagogies alternatives, et vous en avez fait votre spécialité, et nous notamment, on a dévoré votre ouvrage qui s'appelle « Les pédagogies alternatives aux éditions Attier », qui présente vraiment de manière très concrète l'ensemble de ces pédagogies alternatives. Et donc j'aimerais bien que vous commenciez par nous définir ce qu'est une éducation alternative.
Oui, ben écoutez, ce qui m'a semblé le plus intéressant, et je reviens sur le mot alternatif, hein, parce que bon, c'est une discussion hein, qu'on peut d'ailleurs avoir, parce que selon les pays, on n'utilise pas ce terme, mais en France, on va dire que le terme d'alternative, ça veut bien dire autre chose que le système dit traditionnel, et ça, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, ces pédagogies alternatives, elles se retrouvent, elles se fédèrent hein, depuis assez longtemps dans leur histoire, hein, puisqu'elles datent finalement du début du XXe siècle, si on y pense. Et c'est vraiment une autre façon d'enseigner, c'est une autre façon d'éduquer, c'est une autre façon de comprendre les apprentissages, les relations entre les adultes et les enfants. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre véritablement de la société, hein, comment on pense sa société et quelle société on veut. Donc ça, je pense que c'est un point fondamental, en tout cas, de compréhension de ces pédagogies alternatives. Et puis, il y a aussi, évidemment, hein, une autre vision de l'éducation, c'est-à-dire de se dire qu'on ne fait pas simplement que transmettre des connaissances. Ces pédagogies alternatives, enfin l'éducation alternative au sens vraiment extrêmement large, c'est aussi une nouvelle vision de l'éducation, et donc pas simplement une transmission de connaissances, mais de permettre aux enfants justement de s'épanouir et d'obtenir quelque chose d'extrêmement fort, hein, c'est de se connaître soi-même pour connaître les autres. Et là, je crois que c'est évidemment le côté alternatif par rapport à un système qui, à la base, hein, depuis le 19e siècle, on va dire, de l'école obligatoire, pense d'abord à créer un citoyen, et donc c'est pas tout à fait la même logique.
Et comment on différencie les pédagogies alternatives et les pédagogies dites actives ?
Alors, c'est une question justement qui est intéressante, parce que ça change selon les pays. Et justement, j'y travaille de plus en plus, c'est-à-dire qu'il me semble ici justement qu'on a dans la grande famille, on va dire, des méthodes actives, c'est-à-dire qui tentent de permettre à l'enfant d'être acteur de ses apprentissages. Et c'est pas un mot creux, hein, d'être acteur de ses apprentissages, et vous le savez bien. Et donc, en vérité, ces pédagogies actives qui permettent justement à l'enfant d'être en activité peuvent aussi aller, j'allais dire, dans une transformation beaucoup plus globale, hein, c'est-à-dire vraiment avec le côté alternatif, c'est-à-dire de dire, bah voilà, passe par exemple, et on va prendre des choses très actuelles, hein, comme la transition écologique, eh bien, c'est aussi repenser véritablement nos relations avec les autres, repenser notre société et repenser son avenir. Et donc là, on a quand même quelque chose qui va très loin dans le terme d'alternatif. Alors, on y reviendra, mais évidemment, il y a des pays, notamment, je pense à la Finlande, qui visiblement, par la méthode active, en été, deviennent véritablement une transformation véritablement de leur société. En France, il faut quand même le dire, c'est relativement conflictuel, hein, entre des pédagogies qui veulent des choses très différentes d'un système classique, et les liens sont pas toujours aussi harmonieux qu'on le voudrait, en tout cas.
Super clair. Et alors, vous l'avez mentionné, mais est-ce que vous pourriez nous le rappeler, à quel moment de l'histoire les pédagogies alternatives se sont surtout développées ?
Ben, il me semble que il y a deux moments forts. Hein. Il y a le moment vraiment du fin 19e, début 20e siècle. Finalement, c'est l'époque aussi de la création de cette psychologie de l'enfant. Et d'ailleurs, c'est les pédagogues qu'on va appeler d'éducation nouvelle. Et là, il faut penser évidemment à Montessori, Maria Montessori en premier, mais aussi donc à Ovid de Croly, Rudolf Steiner, et plus tard en vérité à Célestin Freinet, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, qui à cette époque pensent justement une éducation qui soit plus en lien avec le rythme de l'enfant, avec ses intérêts, avec ses besoins. Et donc, c'est une vraie révolution. Hein. Ils ont parlé de révolution copernicienne. Hein. Ça veut vraiment dire cette volonté de retourner la table, mais aussi de réfléchir à ce qu'était l'enfant, le statut de l'enfant, mais aussi l'enfant en tant que tel, hein, par sa nature. Et donc, on a ce moment très fort au début du XXe siècle, qui est vraiment important, parce que c'est lié aussi à toute une histoire, hein. J'essaye de montrer justement que ces pédagogies alternatives, elles ont une histoire très ancienne, et que on pourrait revenir à, bien sûr, à Rousseau, mais même avant, hein, avec les humanistes. Et donc on a une vision, en tout cas une mise en perspective historique qui est importante. Donc il y a ce début du XXe siècle, et puis au début du XXIe siècle, il faut le dire, on a un regain très fort à la fois de ces mouvements, le mouvement Montessori par exemple, mais aussi de mouvements nouveaux qui apparaissent au XXe siècle, issus certaines fois des mouvements Freinet, je pense à la pédagogie institutionnelle par exemple, mais aussi avec des mouvements comme les mouvements des écoles démocratiques qui sont apparus en Europe, mais qui viennent des États-Unis hein, depuis la fin des années 60, hein, l'école Sudbury. Donc, on a des mouvements ici très différents, hein, qui abordent de façon différente aussi cette notion d'alternative. Et puis, encore une fois, les courants les plus historiques, hein, comme ceux de Crowley ou de Montessori, ont un regain d'activité très fort hein, au début du XXIe siècle, parce qu'ils ne sont pas simplement un effet de mode, je crois que c'est assez fondamental, mais de comprendre qu'ils sont vraiment révélateurs hein, de notre société actuelle.
C'est ça. Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi justement il y a ce regain de succès à l'heure actuelle de ces pédagogies-là ?
Ben, je pense qu'il y a déjà une première chose, c'est un intérêt général pour l'éducation de ces enfants. Ça a été dit même du point de vue sociologique, les enfants sont désirés et donc il y a aussi cette volonté de penser leur bien-être beaucoup plus fortement qu'avant, et puis de les reconnaître en tant que tels aussi hein, dans la famille, de leur donner une vraie place, hein, ce qui, quand même honnêtement ils n'avaient pas, même juridiquement. Donc ça c'est un ensemble, on va dire, un peu large. Et puis il y a des choses plus actuelles, hein, c'est-à-dire je pense évidemment au développement de l'épanouissement personnel, hein, du développement personnel, c'est-à-dire de penser aussi que notre société va fortement évoluer, va très, vraiment changer, et que tout parent se pose quand même des questions sur l'avenir et ne peut pas dessiner comme ça pour ses enfants ce qui serait un schéma. On est tous d'accord qu'on ne sait pas comment va être nos sociétés dans 20 ans. Et donc évidemment, ça transforme aussi notre vision de l'éducation. On cherche une éducation qui va donner beaucoup plus de valeur, de possibilités aussi d'adaptation et de compréhension de soi hein, pour s'adapter, pour être autonome, plus que des connaissances qui ici sont pas évidemment la clé. Ça, c'est, on y reviendra, je pense, mais c'est important parce que notre système dit classique, il est quand même fondé sur la mémorisation. On voit très bien qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est pas nécessairement de savoir plein de choses qui compte, mais c'est bien de leur donner un sens et d'être capable aussi de chercher hein, par soi-même certains éléments. Donc ça me semble vraiment quelque chose d'important au début du XXIe siècle. Et puis, encore une fois, cette notion de positivité, hein, des fois on dit c'est un mot creux, mais la positivité, ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Une éducation positive, ça veut dire aussi qu'on a un regard bienveillant et plein de confiance dans ses enfants. Et là aussi, je pourrais m'amuser, c'est pas vraiment drôle, mais enfin, l'histoire hein, justement de cette positivité, parce qu'on voit qu'encore aujourd'hui, la maltraitance pour enfants est une réalité forte. Et donc, voilà, je pense que là, aujourd'hui, on a des prises de conscience beaucoup plus fortes ici, d'une majorité de gens, hein. Même si les pédagogies alternatives ne sont que sur certaines personnes, hein, on voit bien que c'est encore à la marge, mais on voit bien que l'intérêt est très fort hein, pour une majorité de la population.
Ouais, c'est certain. Et alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans les grandes lignes ce qui différencie ces pédagogies, comme vous le dites, plutôt à la marge de l'approche traditionnelle que l'on a aujourd'hui en France ?
Oui, alors justement, hein, quand on dit la marge, hein, souvent je répète que justement quand c'est une phrase qui a été dite pour le cinéma, mais c'est la marge qui fait aussi la page et qui la structure.
Bien sûr.
Et donc il faut bien penser aussi que justement, moi, je pense que ces pédagogies alternatives sont des aiguillons extrêmement forts qui mettent en lumière hein, des éléments extrêmement puissants aussi. Donc la première élément qui est important à mon avis, c'est que et qui se caractérise grande différence avec le système dit traditionnel. C'est cette idée d'une éducation intégrale, c'est-à-dire que finalement, l'enfant n'est pas simplement un élève, mais c'est un enfant tant que tel qui va se développer hors de l'école. Et la prise en compte justement d'une éducation de la globalité de l'enfant, de son intellect, c'est-à-dire ça par des connaissances, mais aussi de son corps, des éléments affectifs hein, ici, est une vraie caractéristique qui marque en réalité cet équilibre hein, entre l'intellect, le corps et l'affectif par rapport à une pédagogie dite traditionnelle. Ensuite, il y a évidemment la notion forte de besoin et d'intérêt de l'enfant. Ça, je crois que partir de ses besoins, de son plaisir aussi à étudier, mais aussi ses intérêts, hein, est un élément important pour comprendre la motivation et l'efficacité finalement aussi d'un apprentissage. Et je pense que le troisième point, mais on pourrait multiplier, mais le troisième point, c'est évidemment la notion du rythme de chaque enfant, c'est-à-dire de voir qu'à la fois chaque enfant est singulier, il a sa propre caractéristique, ses propres, justement, son caractère, et le prendre en compte, son rythme propre, est quelque chose d'assez fondamental dans ces pédagogies, et ce qui est très complexe, évidemment, dans un système, on va dire, d'État. Et de l'autre côté, se dire aussi que c'est un être fondamentalement social, et ce que l'on vit tous ensemble, là, avec ces multiples confinements, etc., nous montre bien la nécessité qu'on a d'être en relation avec les autres. Et pour un enfant, évidemment, c'est quelque chose qui est exacerbé. Et ces pédagogies mettent en avant le fait d'être à la fois un être singulier et aussi un être social. Et évidemment, c'est un équilibre complexe, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit positivité, confiance, bienveillance, c'est des éléments qui relient, hein, cette idée de singularité d'un enfant, de prendre en compte ce qu'il est, et puis aussi de prendre en compte qu'il fait partie d'un collectif.
Super intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui les relie autour de l'environnement et du milieu? J'ai l'impression qu'en lisant votre ouvrage, c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans l'ensemble de ces pédagogies.
Oui, tout à fait. Je pense que vous avez tout à fait raison. L'un des... pas le premier, mais enfin en tout cas que ça soit Montessori, mais aussi de Crowley qui l'a plus théorisé, c'est les liens entre l'individu, et là en l'occurrence l'enfant, et son milieu au sens extrêmement large. C'est-à-dire quand il entend, justement, quand il met en avant l'idée de l'enfant et le milieu, c'est le milieu végétal, c'est le milieu animal, c'est les autres enfants, c'est les autres adultes, c'est l'ensemble de la société, c'est l'écosystème, etc. Et il pense à chaque fois les apprentissages, l'enfant par rapport à quelque chose, en relation à et articulé avec. Et donc ça, c'est vrai que toutes ces pédagogies mettent beaucoup en avant, hein, c'est ce lien. Et là aussi, hein, pour répondre aussi un petit peu à une question précédente, c'est aussi pour ça que ces pédagogies se trouvent, à mon avis, en phase, hein, aujourd'hui, avec des préoccupations de société et notamment l'urgence écologique.
Et alors justement, je me demandais pourquoi est-ce que vous pensez qu'elles sont encore à la marge en France? Je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus.
Bah, si on prend du point de vue institutionnel, quand une école s'appelle Montessori, de Crowley, etc., si on compte en nombre, on en arrive à des chiffres extrêmement réduits par rapport aux 12-13 millions de scolarisés. Donc si on veut être dans du point de vue institutionnel, on voit bien une différence. Après, c'est là où, évidemment, c'est quelque chose d'important, c'est ces pédagogies irriguent aussi le système, hein. C'est-à-dire que les enseignants, c'est pas binaire. C'est pour ça que vous voyez le terme d'alternatif, je l'utilise parce que je pense qu'il est très représentatif de certains éléments, mais des fois, il y a un côté alternatif, côté binaire. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment ce qui s'appelle une hybridation, c'est-à-dire que les enseignants du public, c'est pas une éducation traditionnelle comme on l'entendait au 19e. Ils ont fortement changé et le système a complètement changé. Et donc, il y a des éléments de lien, de porosité, hein, ici qui sont assez intéressants. Donc, l'institutionnel, d'ailleurs, je dis souvent, numériquement, bah oui, d'accord, c'est très réduit, mais on voit bien que au niveau des parents, il y a une préoccupation très forte et un intérêt des enseignants. Et à quelques égards aussi de l'institution, même s'il y a des éléments conflictuels, il y a aussi bien la prise en compte, hein, que notre société change. C'est pour ça qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à des écoles aussi dites actives, parce que certains ne s'intéressent pas nécessairement à une pédagogie, qu'elle soit Montessori, de Crowley ou autre, mais s'intéressent en vérité à une espèce de mouvement, hein, très fort qu'on essaye de dessiner ensemble.
Et je pense que Sylvie, tu peux témoigner là-dessus, non, sur le regain d'intérêt de la part des enseignants, de l'éducation nationale, autour de ces pédagogies.
Ah oui, moi c'est ça que je trouve vraiment formidable, c'est ce que Sylvain dit, c'est qu'en fait chacun se nourrit de l'autre, et que nous on le voit avec nos formations, c'est que il y a de plus en plus d'enseignants du public ou du privé sous contrat qui cherchent à se former pour apporter quelque chose de différent, mais en l'incluant à leur socle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun s'apporte, et on voit même nous dans nos écoles Montessori. Nous, notre directrice pédagogique, elle était à la base professeure des écoles, et elle nous apporte aussi beaucoup, beaucoup de son expérience. Et pour revenir sur un débat qui est un peu houleux aujourd'hui, c'est l'attitude du gouvernement par rapport aux écoles hors contrat. Je pense que c'est bien dommage, parce que je trouve que justement les écoles hors contrat, avec leurs innovations, nourrissent aussi le système traditionnel. Donc, je pense que chacun a une raison d'être, une raison d'exister, parce que chacun s'enrichit. Donc, c'est ça qui est formidable aussi.
Tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sylvain, justement, de l'attitude, justement, plus institutionnelle par rapport à ces écoles hors contrat.
Oui, bah, ce qui est compliqué aussi, c'est que les écoles hors contrat, c'est une espèce de nébuleuse aussi. Donc, on a de tout. Donc, quand on est, si on prend du côté de l'institution, c'est assez complexe. Alors, peut-être que l'institution ne cherche pas toujours à bien savoir à qui il a affaire, mais en tout cas, on voit bien que c'est aussi assez complexe. Il y a des écoles qui, clairement, sont dans le contournement du système public pour X raisons, hein, et là, il faut bien le prendre en compte. Et puis, effectivement, il y a d'autres écoles qui, et notamment les écoles Montessori, hein, qui développent, en vérité, une pédagogie structurée, précise, et qui, d'ailleurs, c'est ce qui vient d'être dit, hein, très clairement aussi, hein, qui rayonnent et qui irriguent aussi le système public. Ou alors, bien sûr, peut-être pas au niveau institutionnel, quoique, on voit des formations quand même au sein du public, on voit beaucoup plus d'enseignants qui s'y intéressent, qui lisent, qui font des formations sur, des fois pas toujours sur la pédagogie alternative en tant que telle, mais sur certaines pratiques. Hein, et justement, ça c'est un élément intéressant. J'ai une doctorante qui travaille sur l'introduction du yoga et elle se rend bien compte que c'est une pratique alternative en tant que telle et que beaucoup d'enseignants, sans se revendiquer d'une pédagogie alternative particulière, sont intéressés par ce type de pratique. Et c'est là où le lien se fait, j'allais dire, entre l'ensemble des différentes écoles, qu'elles soient publiques ou privées.
C'est ça. Bon, c'est super intéressant. Et est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement, parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais les principales pédagogies alternatives qu'il existe en France et peut-être une particularité pour chaque pédagogie?
Oui, alors c'est toujours un peu compliqué justement de segmenter, mais on va dire que si on prend par ordre d'importance numérique, clairement la pédagogie Montessori est celle qui domine. Elle domine en nombre, mais elle domine aussi finalement dans les esprits, hein, parce qu'on s'aperçoit que même il y a des dérives commerciales qui peuvent être très fortes, mais on voit bien que c'est devenu une sorte de label. Très fort, et même certains parents vous disent « Ah bah tiens, je suis intéressé par la pédagogie Montessori », et vous le savez, c'est pas tout à fait, on va dire, du Montessori, mais c'est en tout cas un label, et donc ça, c'est important. Donc évidemment, la notion d'autonomie, mais vous savez mieux que moi, ici, et de permettre, enfin, cette autonomie, dans le sens de connaissance de soi et de connaissance des autres, hein, pour se développer, est fondamentale dans cette pédagogie Montessori. Chez De Croly, mais si on en parle tout à l'heure, hein, c'est vraiment la notion de centre d'intérêt. C'est-à-dire que De Croly appuie beaucoup, hein, sur cette idée justement de ne pas segmenter son esprit entre des disciplines scolaires qui ont été construites. Donc ça, c'est un point extrêmement fort. On a la pédagogie Steiner, hein, qui est discutée pour plein de raisons, mais qui développe un élément notamment de la créativité, hein, et du côté artistique, hein, qui est indéniable sur certaines écoles, hein. Ça c'est important. Et puis Freinet, hein, si on prend encore une fois là les quatre fondateurs, enfin les quatre importantes ici qui se retrouvent, la pédagogie Freinet, qui a une grande caractéristique, c'est qu'elle est dans le public en France, avec des enseignants qui montrent justement à la fois des méthodes actives, mais aussi une vision, on va dire, d'émancipation, hein, très très fort des enfants à travers les enseignements du système public. Donc il y a évidemment ces quatre pôles, et puis il y a ce qui sont numériquement les plus importants en France, et puis on a une sorte aussi de nébuleuse des écoles démocratiques, hein, qui appuient beaucoup sur l'éducation horizontale, hein, c'est-à-dire de dire que l'adulte est tellement à apprendre de l'enfant que justement son rôle est moindre, hein, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple des pédagogies Montessori où l'enseignant est très présent, hein, ici là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a ces nuances. Puis vous avez cité évidemment l'éducation aussi à domicile, aussi qui a sa propre caractéristique et qui en lui-même d'ailleurs présente certaines fois des courants très divergents, hein. Il y a une volonté véritablement de transformer certaines fois une pédagogie hors de l'école, notamment avec des apprentissages informels, en disant que ces apprentissages informels finalement de relations sont assez importants et même fondamentaux. Et puis vous avez d'autres parents qui au contraire restent dans des choses un peu traditionnelles. C'est pour ça que C'est intéressant de voir point par point, et c'est d'ailleurs toute la complexité de ces pédagogies alternatives. Dans le livre que vous avez cité, c'est vrai que j'ai essayé de segmenter. Des fois, bah évidemment, il y a une réduction, hein, parce qu'en réalité, en segmentant comme ça chaque mouvement, on s'aperçoit aussi que les parents piochent énormément dans ces pédagogies.
Bien sûr. Oh, c'est super intéressant. Et je sais que vous avez deux axes actuels de travail, que sont les pédagogies de Crowley et Forest School. Donc j'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu plus en détail, parce qu'en plus, nous, nos auditeurs, ils doivent en avoir marre, parce qu'on parle beaucoup de Montessori. Donc on ne va pas parler de Montessori, mais on va plutôt parler de choses que l'on ne connaît pas. Donc je sais que vous êtes notamment spécialiste de la pédagogie de Crowley. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi elle consiste et nous expliquer qui était Ovide de Crowley?
Oui, alors c'est vrai qu'il est moins connu, j'allais dire, que peut-être en France, parce que justement déjà il est belge. Ensuite, parce qu'on le met souvent en lien avec Maria Montessori, parce qu'ils sont tous les deux médecins. Ils ont créé leur école la même année, en 1907, hein, même si de Crowley en a créé une première en 1901. Mais ils sont vraiment contemporains. Donc, il y a des liens très forts entre eux. Et donc, on retrouve évidemment la notion d'autonomie, de plaisir, etc.
Mais ils ne se connaissaient pas ?
Alors, ils ne se connaissaient pas, on va dire, directement. Mais par contre, ils se sont interpellés beaucoup sur des écrits. Hein. Ils se répondaient par écrit interposé, donc pas directement, on va dire. Ça, c'est assez intéressant, et notamment sur le jeu. Parce qu'ils sont tous les deux, ils privilégient le jeu dans les apprentissages, mais ils ont une vision un peu différente. Voilà. Et de Crowley reproche, par exemple, à Montessori d'avoir des jeux un peu abstraits et un peu complexes, alors que lui veut des jeux beaucoup plus concrets et notamment même créés par les enfants eux-mêmes. Donc il y a des liens entre les deux. Si on prend pour faire rapide, hein, en tout cas sur la pédagogie de Crowley, c'est quelqu'un qui a mis en avant le rôle du milieu, c'est-à-dire de dire que l'enfant a un milieu, il faut prendre en compte ce milieu dans les apprentissages. Et puis cette notion, tout à l'heure j'ai cité des centres d'intérêt, c'est-à-dire qu'il divise en vérité le programme en quatre centres d'intérêt. J'en cite un qui est le plus important, enfin qui est le plus important, qui est le plus facile à percevoir, c'est celui d'alimentation, c'est-à-dire qu'il montre qu'à travers, par exemple, l'alimentation, qui est un besoin de se nourrir, hein, pour tout être vivant, eh bien, on peut finalement structurer l'ensemble du programme, hein, d'un programme de maths, de français, d'histoire, de géographie, de sciences, évidemment, de sport, à partir de l'alimentation. Et donc, pendant un an, une majorité, disons, des apprentissages, va être structuré autour d'un centre d'intérêt. Et les enfants vont se référer à ce centre d'intérêt pour avoir une démarche qui est souvent mise en trois points chez de Crowley, avec on observe cette force de l'observation qu'on retrouve totalement chez Montessori. Et après, le deuxième terme qu'il utilise, c'est celui d'associer. Il estime que quand on a observé quelque chose, eh bien, on aide, en tout cas, on comprend quelque chose, on observe bien parce que on associe avec quelque chose qu'on connaît aussi, et notamment ça peut être lié à l'histoire, à la géographie, à d'autres choses qu'on connaît. Donc ce deuxième axe d'association est fort, et le troisième, et non, c'est l'expression, de pouvoir exprimer, hein, que ça soit de façon écrite, que ça soit de façon artistique, que ça soit de façon orale, à travers des pratiques très particulières. Voilà, et donc on le connaît souvent aussi par la globalisation, hein, il faut le dire, hein, c'est un terme avec la méthode globale de lecture. Mais c'est très, très réducteur, parce que c'est pas ça son idée. Hein. Dans l'idée de globalisation, c'est qu'il pense qu'un être voit de façon globale et qu'ensuite, on va pouvoir segmenter des choses. Mais qu'il faut pas tout de suite penser voilà, une discipline, maths, français, etc. Parce que dans ce cas-là, on perd beaucoup. Hein. Et là,
oui,
voilà.
D'accord. Et donc, en fait, sur un centre d'intérêt, par exemple sur l'alimentation, ça veut dire que, à travers l'alimentation, l'enfant apprendra les notions d'histoire, de géographie, etc., à travers ce centre d'intérêt-là ?
Tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il a estimé que, par exemple, l'alimentation, enfin, ça, c'est assez logique, hein, c'est un besoin fondamental, biologique, mais ça va donc intéresser naturellement. Et donc, ce qui est intéressant dans ces écoles, parce qu'en réalité, on voit que quand on est petit, 6-7 ans, bien sûr, on va penser l'alimentation d'une certaine façon. Et souvent, on voit bien ces cartes mentales qui se créent en début d'année où l'enseignant demande un petit peu sur l'alimentation, par exemple. On voit toutes les questions qui sont posées par des enfants de 6 ans. Et si on le refait quand ils ont 15 ans, on voit bien que les préoccupations sont complètement différentes. et se structure aussi par rapport à ça. Donc c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi de permettre aussi à un individu de se penser par rapport aussi à un centre d'intérêt qui est à la fois individuel, l'alimentation, mais qui est aussi collectif.
Ah, c'est super. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre aussi, c'est toute la partie sur la surprise. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, bah c'est la surprise est une pratique créée par la pédagogie de Crowley, mais qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs, qui est une idée importante parce que ça c'est lié à l'observation, à l'éveil des sens, c'est-à-dire qu'un enfant va mettre dans un sac, donc on ne voit pas ce qu'il y a dedans, hein, ça peut être un objet, enfin etc., et un fruit, enfin un légume. Et en réalité, chaque élève va regarder, va sentir, va toucher, va palper, va observer ce sac, va essayer de deviner en tout cas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le but, c'est finalement pas le résultat, mais c'est d'essayer de voir tout le processus. Et notamment, là, la surprise est une caractéristique en maternelle. Hein. Ça permet justement aux enfants d'observer, d'éveiller leur sens et puis aussi de pouvoir se parler, dialoguer, s'entraider, hein, à voir un petit peu ce que c'est que cet objet. Donc c'est quelque chose qui est très ludique, hein, bien sûr, mais qui est un exercice très intéressant parce que on met en avant le processus plus que le résultat en lui-même. Voilà. Et ça, ça donne une force, en tout cas, à une pratique qui se développe, il faut le dire, hors de la pédagogie de Crowley.
Bien sûr. Et c'est ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que du coup, sur cet aspect-là, la pédagogie de Crowley était assez différente de la pédagogie Montessori, où justement on a un matériel chez Montessori, comme on le sait, qui est relativement prédéfini, oui. Contrairement à l'approche de Crowley.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est même parce que on voit bien les points communs entre les deux pédagogies, et ça c'est une forte différence, très très grande différence. C'est-à-dire que de Crowley appuie beaucoup sur l'idée, finalement, ou de créer soi-même des jeux ou des activités, mais effectivement, il n'y a pas de choses prédéfinies. C'est pour ça que ça, c'est vraiment une discussion qu'ils ont tous les deux par article interposé qui est souvent très intéressant et très constructif, parce qu'on voit bien que les deux, sans se connaître véritablement, ont des désaccords là-dessus, mais des accords qui nous intéressent aujourd'hui. En relisant justement ces éléments, on voit bien que ce n'est pas quelque chose d'anodin.
Oh, c'est super intéressant. Et il y a beaucoup d'écoles de Crowley en France ?
Alors non, il n'y en a qu'une qui est une école publique, mais qui a la caractéristique d'être... Alors elle est à Saint-Mandé, près de Paris, et elle est caractéristique parce que c'est une maternelle, une école primaire et un collège. Et donc elle a été créée en 1945, donc après la mort de Crowley, et donc c'est la seule école en France qui se revendique de la pédagogie de Crowley. En réalité, elles sont beaucoup plus nombreuses, évidemment, en Belgique, ici, mais aussi dans le monde entier. Hein, vous en trouvez en Espagne, à Barcelone, et puis en Amérique latine. Donc, c'est un courant qui n'a pas, évidemment, le côté puissant, structuré de la pédagogie Montessori au niveau mondial, mais qui existe et qui est extrêmement vivant et à mon avis, très fécond.
Ce que j'aime beaucoup, notamment que vous avez souligné dans votre livre, c'est que vous citez de Crowley qui dit que c'est une éducation par la vie, pour la vie.
Oui, c'est une phrase qu'il aurait dite, on n'est pas totalement sûr, mais c'est vrai qu'elle place bien, en tout cas, cette idée d'être en lien, en tout cas, avec le concret. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour lui. Donc, de surtout de sortir, en tout cas le plus possible, et là, vous allez voir la transition très subtile que je suis en train de faire avec l'école d'heure. Et puis qui n'est absolument pas visible, cette transition. Et donc, en réalité, les écoles de Crowley, par exemple, de Crowley notent bien qu'il faut que ces écoles soient en lien direct avec des espaces extérieurs, notamment des forêts. C'est pour ça qu'à Bruxelles, à côté de l'école, il y a le bois de la Cambre où les enfants peuvent aller tous les jours. Et à Saint-Mandé, vous êtes près du bois de Vincennes. Et on sait que ceux qui ont créé Saint-Mandé ont pensé, c'était où à côté du bois de Vincennes ou à côté du bois de Boulogne, chercher un lieu qui soit en lien avec la ville, parce que c'était pour eux la modernité, mais aussi avec une activité extérieure.
Ah, c'est super. Donc du coup, avec cette transition subtile, on va parler des forest schools. On voit bien qu'on en entend beaucoup plus parler, des forest schools, je trouve, là, depuis quelques années. Peut-être que vous pourriez nous rappeler en quoi elles consistent et pourquoi vous y êtes intéressé.
Oui, alors là, justement, en faisant cette transition, vous voyez comment je m'y suis intéressé, c'est que l'éducation nouvelle a toujours estimé, ce que du point de vue un peu peut-être universitaire, on dit la forme scolaire, hein, c'est-à-dire que la forme scolaire qui est celle d'une salle de classe avec un enseignant qui parle à des élèves, eh bien, l'éducation nouvelle a toujours pensé à que cette forme scolaire était beaucoup trop, non pas traditionnelle, mais en réalité qu'elle ne permettait pas un enseignement efficace. Et donc, ils ont pensé immédiatement à se dire qu'il faudrait des lieux, et notamment extérieurs, pour développer l'éducation qu'ils proposent. Donc, il y a cette idée donc, qui est très, très ancienne, et c'est vrai, bon, il faut être très clair, le confinement a joué énormément hein, dans cet engouement en France, en tout cas pour la connaissance, hein, parce que les forest schools ont toujours, toujours existé. Ils existent aussi au début du XXe siècle, mais aux États-Unis, dans les pays scandinaves, qui sont très proches naturellement de la nature. Donc, c'est des pays où l'Allemagne, et on voit que c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement fort. Les pédagogies nouvelles ont repris un petit peu aussi cette idée-là. Mais c'est vrai que depuis quelques années, hein, c'est pas que le confinement, mais le confinement a créé un engouement énorme sur l'idée même hein, de pouvoir enseigner et de pouvoir penser autrement la relation pédagogique quand on va à l'extérieur. Voilà. Donc, Forest School, il y a le terme international, c'est un mouvement international qui est très, très structuré, mais il y a aussi au niveau français, ce qu'on va appeler l'école en dehors, hein, qui essaye de proposer, et moi je m'y intéresse de plus en plus évidemment, parce que ça suit vraiment une de mes préoccupations et liée aussi à l'environnement, à la transition écologique.
Bien sûr. Et donc vous voyez qu'en France, ces écoles-là se développent beaucoup ?
Alors oui, elle se développe. En réalité, à deux points, il y a des écoles dites forestières, enfin forest school, qui se créent. Hein, c'est évident, et ça, c'était avant le confinement, mais encore une fois, c'est quelque chose qui évidemment explose. Et puis, on a aussi un intérêt de plus en plus de la population, dans son sens extrêmement large, des parents, au point de vue particulier, hein, qui sentent bien que l'idée d'être à l'extérieur, c'est bien un symbole de liberté. Hein, tous conscients, si on avait encore des doutes là-dessus, et aussi de l'institution. Et on voit bien que l'institution, alors on ne sait pas jusqu'où elle ira, hein, l'institution, mais elle semble plutôt favorable. Alors actuellement, c'est du point de vue conjoncturel, évidemment, aller dehors est quelque chose qui est plutôt proposé. On verra si, à la fin de cette crise sanitaire, l'institution poursuit cette idée-là. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un vrai engouement. Il y a un engouement qui... Voilà. Moi, dans mes recherches, honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est que, évidemment, c'est pas une crainte, hein, mais disons que je pense que l'engouement, pour l'instant, c'est on veut sortir. Et l'idée, et vous en serez aussi, je sais que c'est quelque chose qui est très fort pour vous aussi, c'est l'idée, c'est pas simplement sortir et d'aller se promener, mais c'est aussi l'intégrer très fortement dans les apprentissages et en faire une véritable éducation. Et c'est pour ça que le terme de forest school est important, parce que ça propose une véritable pédagogie avec et dans la nature.
Ouais, c'est ça. C'est super. Bon, on arrive déjà à la fin de cet entretien, malheureusement, et j'aimerais vous entendre parler encore des heures de ces pédagogies alternatives. Ce qui me fait penser qu'on vous invitera à nouveau pour parler d'autres pédagogies, parce que je trouve que vous avez une approche qui nous permet vraiment concrètement de bien les comprendre, et c'est super intéressant. Et je pense aussi, peut-être que vous pourrez en parler rapidement pour clore la discussion, mais aussi toutes les clés que vous donnez dans votre livre pour permettre aux parents de mettre en place ces pédagogies à la maison que je trouve très intéressant.
Oui, ben, merci. Et puis, en tout cas, pour dialoguer avec vous, je serai toujours là, il n'y a pas de problème, et avec grand plaisir. Mais oui, c'est vrai que ce que je pense, c'est que tout à l'heure, j'ai utilisé le terme d'éducation intégrale, c'est-à-dire de dire justement que le système, on va dire, traditionnel a un peu trop tendance à prendre l'enfant simplement comme un élève. Et l'idée, évidemment, aussi, c'est, si on pense éducation intégrale, c'est proposer aussi aux parents, non pas de prolonger l'école à la maison, pas du tout, mais au contraire, d'être attentif, d'être avec ses enfants, de pouvoir les écouter, d'être beaucoup plus à l'écoute avec eux, et de voir que, finalement, c'est pas simplement une écoute parent-enfant qui va se faire, mais c'est véritablement une espèce de lien très fort, d'articulation hein, qui va se faire hein, entre les enfants et les adultes. Et donc l'idée évidemment aussi du livre, hein, c'était de mettre un peu en pratique cette éducation intégrale en montrant bien, en tout cas, qu'on doit s'intéresser à toutes les facettes de son enfant et d'en avoir conscience. Voilà, je pense que évidemment tout parent veut le bien de ses enfants, c'est très clair. Hein. voilà, l'extrême majorité, c'est évident. Mais souvent, ils se demandent un petit peu comment faire. Mais j'allais dire, être à l'écoute, faire ensemble. Et justement, si l'école en dehors se développe, c'est aussi peut-être parce que, j'allais dire, aller se promener avec son enfant. Hein, on sait très bien que en marchant, au cours d'une promenade, on peut se parler, on observe. Et finalement, on retrouve beaucoup d'éléments très évidents de ces pédagogies alternatives, c'est-à-dire d'être avec la vie, encore une fois, et d'être dans le concret.
C'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications qui étaient passionnantes. On vous souhaite beaucoup de réussite dans toute la continuité de ces recherches qui sont essentielles pour tous. Et je vous remercie encore pour votre temps et j'espère à très bientôt.
Oui, merci beaucoup.
À très bientôt et c'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.